Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, consacré aujourd'hui au 3 mai, la journée dite de la liberté de la presse dans le monde. Le 3 mai de chaque année est célébré journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, c'est à Addis Abeba, en Éthiopie, que l'UNESCO a choisi pour regrouper les défenseurs de la liberté de la presse pour échanger sur le thème « Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation ». Pour rappel, le 3 mai a été proclamé journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek Namibie sur le pluralisme et l'indépendance des médias. En tant qu'agence des Nations Unies ayant pour mandat spécifique de promouvoir la libre circulation des idées, des mots et des images, l'UNESCO s'emploie à promouvoir des médias libres, indépendants et pluralistes, ainsi que la sécurité des journalistes. Pour l'UNESCO, la journée du 3 mai permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse, d'évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde, de rappeler aux différents gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Et c'est aussi une journée de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie. Et c'est justement cette réflexion que nous essayons de faire aujourd'hui dans ce forum autour du sujet « Exercice de la liberté de la presse au Niger, comment sont véhiculées les fausses nouvelles, leurs conséquences et comment éviter le piège ». Pour développer ces thèmes, nous sommes avec Amina Nyaoundou, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication, Albert Chebou, directeur radio alternative, et Lamine Souleyman, journaliste, au micro Alassane Kouzi Mahamadou. Chers invités, comment définir la désinformation ou les fausses nouvelles, Albert Chebou?
Pour moi, la désinformation ou les fausses nouvelles, comme vous le dites, ou les fake news, c'est le non-respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession des journalistes. Parce qu'il faut préciser que le journalisme s'est donné un certain nombre de règles qu'on appelle les règles d'éthique et de déontologie. D'abord, l'éthique, c'est un ensemble d'idées, de comportements par lesquels une personne bâtit ses relations avec les autres. Ce n'est pas une exclusivité journalistique. Chacun peut avoir son éthique et cela dépend aussi de la société dans laquelle on se trouve. La déontologie, c'est un ensemble, si vous voulez, de devoirs que des professionnels s'imposent dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, les règles d'éthique et de déontologie guident le travail normalement du journaliste. Si le journaliste se détourne de ses règles d'éthique et de déontologie, c'est clair qu'il ne donne pas une information, il désinforme. Donc pour moi, la désinformation, c'est vraiment le non-respect des règles d'éthique et de déontologie. Voilà.
Nous donnons la parole à Amina Nyaoundou, présidente d'APAC Niger. Pour vous, les fake news, qu'est-ce que c'est?
En plus de la définition que confrère Albert Chebou vient de donner, pour moi, la désinformation, c'est aussi une question de donner ou bien d'inventer carrément des situations qui n'existent pas, d'inventer une fausse nouvelle ou un faux fait pour le rendre au public. Pour moi, en plus du non-respect des règles d'éthique et de déontologie, c'est carrément une pervertisation de notre profession. C'est vraiment un fléau qui peut détruire toute une société.
Lamine Souleyman, vous avez la parole.
Je commence par là où Amina Nyaoundou, la présidente de APAC, a fini, en parlant de fléau et qui menace la profession même du journaliste. Je dois dire d'entrée de jeu que ce fléau-là, c'est que d'abord, la fake news, c'est une fausse information créée dans le but de tromper un auditoire ou pour manipuler une communauté. Et il faut placer ce concept dans son contexte. Avant l'avènement de l'Internet, on ne parle pas de fake news. Donc, fake news aujourd'hui, ça rime avec l'Internet, l'avènement des réseaux sociaux. Et ce n'est pas l'apanage des journalistes. Les journalistes font partie des cibles des auteurs de fake news. Malheureusement, ce n'est pas les journalistes qui fabriquent ça. Les journalistes, même s'ils fabriquent une information fausse, ils la diffusent en tout cas à travers un organe qui est bien connu. Ça peut être un journal, un média en ligne, un site d'information donc, ou une télévision, une radio. Donc, en ce moment, on ne parle pas de fake news. C'est lorsque l'information fausse ou erronée, elle est diffusée sur un réseau social ou sur un blog ou carrément sur un site d'information dont l'auteur est difficile à être identifié.
Et quand c'est repris dans
les médias traditionnels, quand c'est repris en ces temps-là, les médias, ils font partie des victimes des fabricants de fake news. Parce qu'aujourd'hui, il y a des professionnels des fake news qu'on en trouve dans toutes les sphères d'activité. Vous trouvez dans le monde des affaires. C'est là-bas que ça a commencé. Et les hommes d'affaires se font la guerre entre eux. Ils fabriquent une fausse information pour nuire aux intérêts de telle ou telle entreprise. C'est après que ça, n'importe qui utilise. C'est aujourd'hui tout le monde qui est dedans. Tout celui qui sait qu'il peut avoir un intérêt. Il poursuit un objectif. Manipuler une population ou désinformer, il peut faire usage.
Pour le cas du Niger, quel est le constat qui se dégage? La propagation des fausses nouvelles est-elle fréquente?
Ah oui, le Niger aussi, malheureusement, il vit au rythme des autres pays. Le Niger ne peut pas être à l'abri. Donc, ça va à la vitesse de la lumière, la propagation de cette fausse nouvelle. Il y a au moins environ, selon une dernière étude, près de 5 milliards de contenus identifiés comme fake news qui sont diffusés tous les jours à travers le monde. Donc, le Niger en fait partie, puisque le Niger aussi fait la propre partie de la population mondiale. Donc, il y a des centaines de fake news que les gens diffusent.
Alors, M. Albert Chebou, directeur Radio Alternative, tout à l'heure, Lamine Souleymane disait que les fake news, ce n'est pas seulement l'apanage des journalistes et que les journalistes sont plutôt le plus souvent les cibles des fake news.
Avant de parler de ça, je voulais juste préciser que, en fait, fake news, c'est une nouvelle appellation des fausses nouvelles.
Fausses nouvelles.
De l'infox ou bien de la désinformation, en fait. Donc, ça a toujours existé. Parce qu'il y a eu beaucoup des écrits, des livres, des documentaires sur la désinformation des médias, même des médias occidentaux. Donc, pour dire que les fake news aujourd'hui, on parle de plus en plus parce que les réseaux sociaux, les médias sociaux, aujourd'hui, comme vous savez très bien que les contenus de ces médias, de ces nouveaux médias, ce sont les utilisateurs qui donnent les contenus. Donc, ils ne sont pas sous la coupe des règles d'éthique et de déontologie. Les gens peuvent publier n'importe quoi. Et au Niger, de plus en plus aussi, les gens sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, etc. Les gens utilisent tous ces réseaux-là et ils balancent des informations parce que souvent, des gens qui ne sont pas des journalistes. Donc, n'importe quel citoyen peut se permettre d'écrire, de poster des choses. Donc, et puis, ce n'est pas comme tout à l'heure, Ami disait, ce n'est pas encadré. Il n'y a pas une législation qui encadre ces réseaux sociaux. Mais voilà, il y a le danger. Malheureusement, il y a des médias traditionnels aussi qui sont sur ces réseaux sociaux, qui exploitent souvent des informations données par les réseaux sociaux sans pourtant vérifier ces informations. Parce que le travail de journaliste, comme je l'ai dit, c'est de respecter les règles d'éthique et de déontologie qui exigent du journaliste la vérification de l'information avant sa diffusion, sa publication.
Alors, Amina Nyandou, présidente APAC, les fausses nouvelles, les fake news, c'est un fléau. Tout à l'heure, Lamine disait que les journalistes sont même des cibles. Et est-ce que pour le cas du Niger, vous avez cette impression que justement, ces journalistes, ils sont vraiment la cible des fabricants?
Les journalistes, autant ils sont des cibles, et autant ils sont aussi acteurs. Hein. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Si on prend la question de la participation, en tant qu'acteur de cette question, un journaliste qui se permet de prendre une information sur un média nouveau sans vérification, sans s'entourer des règles nécessaires de la profession, se permet de la diffuser, je pense qu'il est acteur aussi. Pour moi, il est acteur, il n'est pas une cible. Il est acteur aussi. Donc, la cible, c'est que, en tant que cible, les créateurs de ces fausses informations, ils nuisent à la profession. Ils créent le sensationnel sur les médias nouveaux. Donc, ce qu'on l'a dit Albert, les gens ont plus tendance à s'informer sur les médias sociaux, pensant que les médias sociaux leur donnent la bonne information, ils délaissent les médias traditionnels qu'on a, le journal, la télévision, la radio, tout ça. Mais si on prend la question au niveau de la participation, c'est le grand danger. C'est le grand danger dans la profession. Parce que un professionnel qui met de côté les règles d'éthique et de déontologie, nous nous sommes fait un code. Il y a un code des journalistes professionnels, un code d'éthique qui existe. Yeah. Il y a une charte des journalistes professionnels qui existe. Il y a le régime de la liberté de la presse qui est là. C'est vrai qu'on n'a pas de loi qui légifère la question de l'information électronique. Mais on a au moins en tout cas un minima qui nous permet d'exercer dans la profession. Donc, un journaliste qui met tout ça de côté pour aller prendre un poste quelconque, une publication quelconque sur un média social, sans le vérifier et le diffuser à l'échelle, même si c'est local, il y a un danger public. Parce qu'une petite information peut détruire tout un pays. On a vu la situation hier. Je prends juste l'exemple d'hier, à Cotonou, au Bénin. Une fausse information de l'arrestation de l'ancien président Yahi Boni a créé des émeutes. Toute la ville de Cotonou était sans dessous hier, juste à cause d'une fausse information. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est des problèmes. Il y a des cas comme ça, plein qu'il y a chez nous. Bien. Il y a des cas où un poste quelconque, c'est une opinion, nous connaissons tous. Dans les règles d'éthique et de déontologie, on connaît tout ça là. Tous les genres existent. On a de l'opinion, on a de l'analyse. Les genres journalistiques sont là. Le commentaire, tout. Et ça. Mais les gens, quand c'est une opinion, un journaliste professionnel, il se doit de dire que c'est une opinion. Même si c'est un poste de quelqu'un.
Que
oui, il doit le dire. Mais non, il ne le dit pas. Il prend juste le poste, il le diffuse. Sans dire que c'est une opposition, mais les auditeurs qui l'écoutent ou les téléspectateurs qui le suivent, pour eux, c'est content. C'est de l'argent content. C'est de l'information qui est là et ils se disent que, surtout chez nous, on a une culture. Nos canaux d'information sont aussi des canaux de formation parce que nous sommes dans une société qui a un faible taux d'instruction. Donc, tout ce qui est dit à la radio est parole d'évangile, comme on dit. Parole. Les gens y croient. Les gens disent, ah, j'ai entendu ça à la radio. Donc, c'est vrai. Vous voyez le danger que ça peut créer, la désinformation.
Vous avez évoqué tout à l'heure la loi portant régime de la liberté de la presse. Est-ce que cette loi, elle est expresse par rapport à la propagation des fausses nouvelles, par rapport à leur diffusion?
Bon, la loi sur le régime de la liberté de la presse traite des délits de presse. Dans les délits de presse, la question de la diffamation, la question de l'injure sont spécifiées dans la loi. Mais la loi a des insuffisances, spécifiquement que traiter de la désinformation. En tout cas, il y a des spécifications qui manquent. C'est ce qui fait que aujourd'hui, bien que la loi a converti les peines privatives en des peines pécuniaires,
c'est-à-dire que les journalistes ne vont pas en prison, mais
quand ils sont pris pour des délits de presse, c'est des amendes qu'ils doivent payer. Mais s'ils sont dans l'incapacité de payer les amendes aussi, le procureur peut décider de les envoyer en prison là, pour faire la peine à la place de l'amende non payée. Mais ce que je dis, c'est que spécifiquement la question des fausses nouvelles, tout ça, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui manquent. La loi a des insuffisances. Du coup, au moment où on a eu la loi au début, en 2010, il y a beaucoup de professionnels qui ont pris cette loi comme un permis à tout faire. Du coup, ça a créé des déboires. Les gens ont oublié leur propre responsabilité, pensant que, bon, dorénavant, on ne part plus en prison, alors que si tu ne peux pas payer l'amende, tu peux aller en prison. Les gens ont oublié tout ça. Du coup, ça donne la possibilité, en tout cas au système judiciaire, de nous prendre
sur des questions de code pénal. Parce que s'il n'y a pas des spécifications sur des fausses nouvelles, on peut te prendre sur du faux. En tout cas, les professionnels de la justice ont toujours la possibilité d'enfermer un journaliste en contournant justement cette loi qui n'est pas très claire sur certaines situations.
Lamine Souleymane, les fake news, c'est un fléau reconnu par tout le monde. Est-ce que les textes nigériens prennent en compte ces fléaux?
Non, pour le moment, les textes en vigueur qui régissent notre profession, ils prennent en compte non pas les fake news, mais ils prennent en compte de façon globale la diffusion de fausses informations, telles que la diffamation, l'injure publique. Amine Alignandou l'a rappelé tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un texte qui est dans le circuit, je ne sais pas, d'élaboration ou d'adoption, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais je sais que la question, elle fait débat au niveau des pouvoirs publics. Mais de façon spécifique, je ne pense pas s'il y a un texte, en tout cas à la date d'aujourd'hui, qui régit la presse électronique de façon globale où il n'y en a pas. Les textes qu'on a, c'est les textes qui existent, le régime, la loi de 2010 et plus la charte des journalistes, le code d'éthique et de déontologie. C'est tout ce qu'on a, très malheureusement. J'ai dit pourquoi les gens font partie de la cible aujourd'hui. Parce que j'ai vu de plus en plus les journalistes, ils viennent, ils prennent pour argent comptant une information diffusée, d'abord par un faux profil et même par quelqu'un, même si l'identité
de l'auteur
est connue, ce n'est pas en tout cas suffisant. Il y a plusieurs canaux de vérification d'informations, ce qu'on apprend aux gens à l'école. Mais pourquoi le journaliste qui s'est dit professionnel va mettre de côté ces canaux de vérification de l'information, il prend une information et il dit voilà la source. C'est vrai, tu as vu ça sur un réseau social, mais tu n'es pas crédible. Tu mets en cause ta crédibilité de journaliste.
Et celle de la corporation.
Mais oui, en diffusant quelqu'un parce que tu dis voilà le monsieur, mais si le monsieur il l'a fait, il fallait, toi peut-être, il t'a donné des premiers signes. Il faut aller vérifier. Il y a plusieurs façons de vérifier. Ça peut être, si c'est un site qui est bien connu, qui a une légitimité, une crédibilité, là, ça peut devenir une information. Tu peux citer, c'est le site de Studio Kalangu. C'est une source crédible. Mais le simple fait de balancer la photo de quelqu'un, tu prends une caméra, là, je fais allusion au traitement que les télévisions font de ces fausses informations. Ce n'est pas suffisant. Tu prends la photo, tu dis, voilà notre source. Ce n'est pas suffisant. Tu es induit en erreur. Donc, ça veut dire que tu as été complice quelque part dans la propagation de cette fausse nouvelle.
Récemment, la loi sur la communication électronique a été adoptée.
Okay.
Ça, c'est sur la communication électronique, mais il n'y a pas, au niveau de l'ARCEP, c'est l'ARCEP qui est porteuse de cette loi-là. Et maintenant,
l'autorité de régulation des communications
électroniques et de la poste, l'ARCEP, donc la loi sur la communication
qui remplace
l'ARTP, tout à fait. Donc la loi sur la communication électronique, elle existe, elle est adoptée. Maintenant, c'est la loi sur la presse électronique qui souffre. C'est ça qui n'est pas encore adopté. Donc il y a un projet qui existe déjà, qui est dans les circuits.
Merci. Lamine Souleymane, quelle est la responsabilité du journaliste dans la diffusion, la propagation des fausses nouvelles? Est-ce que le journaliste doit être une barrière, en tout cas entre les fausses nouvelles et le public?
Mais naturellement, le journaliste, son rôle, ce n'est pas seulement de balancer aux gens de l'information, il doit éduquer aussi. Et en s'interposant entre le fabricant de la fausse information, de la fake news et le public, il fait œuvre utile. Donc, il ne doit pas laisser une fausse information circuler. En tout cas, c'est pour cela, lui, sa responsabilité, c'est tout de suite de chercher à savoir qu'est-ce qu'il en est. Cette information, d'où c'est, où son origine, qui est l'auteur, le site qu'il a diffusé, est-ce que c'est un site crédible? Il faut chercher à vérifier. Et même s'il a envie de traiter de cette information, le moins qu'il puisse faire, c'est en tout cas de prendre le contre-pied pour dire au public que telle information qui est diffusée n'est pas bonne, c'est une fausse information. Après vérification, nous avons découvert que d'abord, c'est un blog qui n'est pas connu du grand public, l'article n'est même pas signé. Là, il met en jeu sa responsabilité et il fait œuvre utile. Mais on dit souvent sur les réseaux sociaux, quand vous recevez une fausse information, la meilleure façon pour vous, c'est de ne pas la partager.
Parce qu'en la partageant,
oui,
vous donnez la possibilité à plusieurs
personnes. Donc les journalistes aussi, ils doivent se mettre dans cette logique
Il doit s'inscrire dans cette logique-là. Il décourage le fabricant de fausses informations. Mais en venant, en placardant l'image, voilà le monsieur, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Là, vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous n'avez pas fait un effort, vous n'avez pas fourni un effort de vérification de l'information. Si vous savez que Albert peut vous donner, aider à toucher une source qui se trouve à Paris pour vérifier est-ce que cette information-là... Mais pourquoi ne pas toucher Albert, puisque Albert est ici, chez vous, sur place, à côté. Il suffit d'un simple coup de téléphone, vous pouvez le contacter, ou la présidente de APAC. Et n'eût été, je dirais encore, la loi sur la liberté de la presse de 2010, beaucoup de journalistes allaient vraiment être privés de leur liberté pour usage de faux.
Albert Chebou, la responsabilité du journaliste est en jeu dans la propagation, en tout cas, des fausses nouvelles.
Absolument. Comme l'a si bien dit un célèbre journaliste, Hubert Beuve-Méry, qui est le fondateur du grand quotidien français Le Monde, il dit qu'il n'y a jamais de liberté sans responsabilité, que les limites de la liberté, c'est justement la responsabilité. Parce que le journalisme repose sur un certain nombre de normes, donc des piliers. Par exemple, l'intérêt public. Il faut que l'information qu'on donne soit une information d'intérêt public. Il faut que cette information soit véridique. Il faut la rigueur et l'exactitude dans le travail des journalistes. Il faut que les journalistes puissent avoir cette capacité d'analyser les faits, de mettre les événements en relation, d'expliquer les chiffres, etc. Il faut que l'information qu'ils donnent soit exacte. Il faut l'intégrité, il faut l'impartialité.
Et c'est de là que découle la crédibilité.
Et on ne parle pas beaucoup aussi, il faut l'imputabilité. Parce que les citoyens...
Et qu'est-ce que vous appelez l'imputabilité ?
L'imputabilité, parce que la liberté de la presse est consubstantielle au droit du public à l'information. Les citoyens peuvent demander des comptes aux journalistes par rapport aux informations qu'ils leur donnent, par rapport aussi à leur comportement. Donc, nous, on avait à l'époque, avec l'ONIMED, essayer de porter un projet sur l'éthique et la déontologie et le contrôle citoyen des médias. Donc c'était un travail vraiment amené à une revue critique des contenus des médias par des citoyens. Donc je pense qu'il y a l'imputabilité, c'est-à-dire que les citoyens ont droit de connaître ce que font les journalistes, c'est-à-dire l'information qu'ils donnent et leur comportement. Les citoyens sont tenus aussi de critiquer justement les pratiques journalistiques. Donc la responsabilité, elle est importante. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que les règles d'éthique et de déontologie, c'est ça qui guide le travail de journaliste. Et ces règles d'éthique et de déontologie constituent en tout cas des normes inhibitrices de dérapage médiatique, des dérives médiatiques. C'est vraiment quelque chose qui permet de bloquer vraiment ces dérapages si on respecte ces règles d'éthique et de choses. Ces règles d'éthique et de déontologie aussi contribuent vraiment à accroître la légitimité de la fonction sociale des médias. Donc si on respecte, c'est-à-dire que les gens même vont bien nous voir.
Et il y a la crédibilité qui est là.
Exactement, parce qu'il faut être crédible. Ceux qui ne respectent pas, par exemple, dans nos pays, beaucoup de médias, souvent, ils donnent des fausses informations. Ce sont des choses, vraiment des dérapages qu'on peut éviter si on respecte véritablement les règles d'éthique et de déontologie. Donc la responsabilité sociale du journaliste, elle est vraiment importante.
Aminyandou, peut-être quelque chose sur la responsabilité.
La responsabilité, c'est la base. Hein? C'est la base. Je pense que c'est le fondement même du journalisme. Parce que la responsabilité, c'est ça qui te permet de veiller au respect des droits des autres. Ta liberté ne te donne pas justement la liberté d'atteinte des autres, des libertés des autres. Le journaliste est un vecteur de développement. Le journaliste, il est un acteur du changement. Donc, au nom de cette mission de service public, nous devons tout d'abord, en tout cas, veiller à notre propre responsabilité dans ces questions. Nous devons veiller au respect des droits humains globalement, hein, si on prend la question de la dignité des personnes, tout ça. Et tout ça, c'est encadré par les règles d'éthique et de déontologie. Il faut veiller au respect de la dignité humaine. Il faut veiller, en tout cas, à la moralité. Tout ça, là, on doit veiller. Tout est là, dans le béaba. En tout cas, la base nous donne tout ça. Donc, la responsabilité, il faudra toujours attirer l'attention des professionnels sur cette question.
Bien.
Et c'est un tout. La responsabilité est au-delà de cet engagement, de cette imputabilité. Il faut quand même aussi une base professionnelle. Il faut cultiver l'excellence. Il faut toujours s'entourer de garde-fous. Il faut respecter les règles et il faut aussi se cultiver. Parce que si on ne se cultive pas aussi, on ne peut pas s'améliorer.
Cela nous amène d'ailleurs à aborder les conséquences et les causes de la propagation d'une grande partie des fausses nouvelles. Selon vous, quelles sont les principales causes qu'on peut en tout cas citer aujourd'hui qui motivent certaines fausses informations qui circulent? Est-ce par manque de formation? Est-ce par manque de rigueur?
Bon, pour moi, c'est un tout. C'est un tout qui amène les professionnels à tomber dans ces pièges-là.
Et c'est pas ce tout.
Ce tout, il est composé, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs endogènes comme il y a des facteurs exogènes aussi. Les facteurs endogènes, c'est le manque de formation, le manque de professionnalisme, le manque de culture générale globalement. Et il y a un phénomène aussi qu'on voit actuellement dans la nouvelle génération dans le corps. Il y a de la paresse, carrément. Paresse. On ne veut pas fournir d'efforts, on ne veut pas cultiver l'excellence du tout cuit. Les gens aiment du tout cuit, les gens aiment le gain facile, tout ça qui est là. Ça, c'est des facteurs endogènes. Parmi les facteurs exogènes, il y a la politisation à outrance qui font que les gens ils deviennent plus militants des autres que militants de leur propre profession, qui font que ces choses-là sont. On a l'arrivée d'une nouvelle forme dans le journalisme, cette question de mercenariat, qui est aussi, en tout cas, encouragée par les facteurs exogènes tels que la politique, comme des groupes d'intérêts économiques, et même des courants religieux se mettent dans cette logique-là. Donc, pour moi, c'est ça le tout. Il y a plusieurs facteurs combinés qui encouragent certains professionnels, en tout cas au nom de la recherche du gain facile, on veut s'enrichir vite, vite, alors que c'est une profession que tout le monde sait à l'origine, dans laquelle on ne gagne pas de l'argent.
Lamine Souleymane, pour vous, pour le cas du Niger, qu'est-ce qui peut, en tout cas aujourd'hui, être indexé comme l'une des raisons de la propagation rapide des fausses nouvelles? Est-ce que c'est la politisation à outrance, comme l'a dit Amina, de beaucoup de secteurs?
Oui, la politisation à outrance, elle peut être considérée comme une des raisons qui a milité en faveur et qui continue de militer d'ailleurs en faveur du foisonnement de fausses informations dans notre pays à travers les réseaux sociaux. Parce que il y a des groupes d'intérêts politiques, d'intérêts partisans, d'intérêts économiques, où des gens ils pensent que si ce que leur honnêteté, leur capacité intellectuelle, je dirais, ne peut pas leur conférer cet intérêt, ils se cachent derrière ce genre de professionnels du faux pour les induire en erreur, leur donner une fausse information, sachant bien que c'est les deux acteurs, ils savent que c'est une fausse information, mais quand même, ils passent par un journaliste assez souvent. Parce que c'est ce que je vis d'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler dès l'entame de mon intervention. Et des gens, ils viennent, ils utilisent souvent sur les réseaux sociaux, ils créent une page Facebook d'un journal qu'on connaît. Le monsieur, il crée la page Facebook, un doublon, alors que ce n'est pas un site, c'est juste une page Facebook. On le connaît, journaliste, mais il diffuse des informations souvent qui ne sont pas vérifiées Et c'est son label. Il attribue son label à cette information et les gens prennent ça pour argent comptant. Alors que c'est faux, c'est de la fausse information. Il y a des intérêts économiques, des gens souvent qui visent un intérêt aussi. Ils peuvent donner une fausse information à un journaliste. C'est du mercenariat. Gagnant-gagnant qu'ils font, tout le monde sait.
Avant d'aborder la dernière partie de cette émission concernant ce qu'il faut faire et ce que déjà les acteurs font, M. Albert Cheb, est-ce que les gens sont conscients du danger de propagation de fausses nouvelles?
Ça, le risque est là. Peut-être que les gens savent même les risques, hein? Mais bon, ils le font pour gagner quelque chose aussi. Mais c'est contre, malheureusement, les règles d'éthique et de déontologie. Donc, parfois, on peut même être bien formé, sorti d'une école de journalisme, etc. On connaît les règles d'éthique et de déontologie, mais on les piétine aussi. Hein. Ça, c'est clair. Beaucoup de journalistes qui sont sortis des écoles de journalisme violent aussi les règles d'éthique et de déontologie.
Donc, ce n'est pas une ignorance
défi,
des textes. Souvent,
le
c'est les réalités du terrain.
Le défi aujourd'hui, je pense que... Il faut pas noircir le tableau, parce qu'il faut saluer aussi le travail que nos organes de presse sont en train de faire, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes travaillent dans les organes de presse, ils n'ont même pas de salaire. Mais malgré tout, ils font un effort.
Un minimum.
Oui, vraiment pour informer les gens. Beaucoup de sujets aujourd'hui, beaucoup de choses, les citoyens sont informés grâce justement à ce travail-là des journalistes de la presse indépendante, de la presse privée. Donc, il y a
Les conséquences
Les conséquences
sur le public et les risques encourus par les...
Les risques, c'est quoi? Au niveau des médias traditionnels, il y a des textes qui encadrent la liberté de la presse, l'exercice de la profession de journaliste.
Qu'on avait
donc
évoqué.
Si vous ne respectez pas cela, c'est clair que vous allez tomber sous le coup de la loi. Donc maintenant, c'est la loi qui va décider de votre sort. Pour en ce qui concerne les réseaux sociaux, les médias sociaux, jusqu'à là, il y a un vide. Peut-être qu'il y a un début
des textes. Il y a textes, des textes, en tout cas, dans les circuits, peut-être qui prendront en compte certains aspects.
Oui, mais bon, on compte beaucoup plus sur l'éthique des gens. Parce qu'au moins, ça, chacun a une éthique, chacun a une morale. Peut-être ça peut atténuer les choses. Mais c'est encore difficile dans ce contexte-là où on n'a pas vraiment de législation pour encadrer tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est un véritable danger pour nous, surtout dans un contexte aujourd'hui du Niger qui est confronté à des attaques terroristes. Et quand on va arriver encore aux élections, parce que c'est un moment très sensible, les élections, et donc du coup, tout à l'heure, Ami a donné un exemple, vous voyez bien les dangers aussi, les conséquences de cette désinformation sur... le pays.
Alors, nous abordons la dernière partie de cette émission. Aminyandou, est-ce qu'on peut avoir le dessus sur la propagation des fausses nouvelles? Si oui, comment faire? Et dites-nous aussi ce que vous, en tout cas à votre niveau, qu'est-ce que vous faites dans ce sens?
Bon, à défaut d'avoir le dessus complètement, il faudra faire des efforts et des efforts sont en train d'être faits déjà. Et je vais rejoindre Albert. Il y a des efforts qui sont là, qu'il faut saluer au niveau de, en tout cas pratiquement tous les acteurs sont en train de se mobiliser pour essayer d'atténuer les effets de ce fléau-là. Des acteurs comme le Conseil supérieur de la communication est en train de s'y mettre. Il y a le projet de la presse électronique qui est en cours. Et au-delà aussi de la loi, parce qu'il faudra améliorer le cadre législatif. Et en plus de ça, le Conseil supérieur de la communication a quand même, en tant qu'instance de régulation, des outils de régulation pour atténuer ces effets-là. Dans le cadre de la régulation, comme l'a dit celui qui ne respecte pas, il encourt des sanctions. Donc, les organes de presse font des efforts, il l'a dit, en dépit des conditions, en tout cas parfois vraiment très, très, très inconfortables de travail, ces médias s'efforcent de donner de l'information, s'efforcent de donner la bonne information, avec quelques déboires, certes, mais il y a des efforts à saluer. Donc je salue ces organes de presse qui sont là. Au niveau des organisations sociales professionnelles également, il y a des efforts qui se font. La Maison de la Presse continue à faire des formations, sur, en tout cas pour un rappel de ces questions d'éthique et de déontologie, des formations spécialisées pour au moins améliorer aussi la profession, parce que nous sommes dans un contexte, en tout cas de mondialisation, où du journalisme simple ne permet pas de survivre. Il faut au moins des spécialisations dans chaque... Il faut que le journaliste il se spécialise dans des questions environnementales, dans des questions de sécurité, en tout cas que nous ayons des spécialisations. Donc les organisations professionnelles jouent ce rôle. Nous, au niveau de APAC, nous faisons la même chose. Nous formons, mais avec une spécification plus sur les femmes journalistes. Nous sommes en train de veiller à ce que ces femmes journalistes soient plus compétentes sur le terrain, que ces femmes journalistes soient en tout cas dans plusieurs pôles d'excellence pour pouvoir s'en sortir. À ce niveau, nous sommes en train de créer un pôle d'excellence en journalisme d'investigation. L'investigation permet en tout cas de faire du journalisme poussé, vérifié, pour pouvoir donner une information vérifiée et vérifiable.
Qui ne sera pas de la fausse nouvelle.
Oui, qui ne sera pas de la fausse nouvelle. Et au profit des populations. L'investigation aussi permet de donner une information peut-être qui peut provoquer des gros changements, qui peut en tout cas susciter un intérêt public. Comme en tout cas, c'est notre première mission. Nous sommes en train aussi de faire des pôles d'excellence dans des questions plus spécifiques, journalisme et sécurité, extrémisme violent, pour pouvoir donner des compétences pour que nous puissions vraiment être des vrais acteurs de développement, des vrais acteurs de changement.
Bien. Lamine Souleymane, les fake news, c'est une thématique sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle vous travaillez. Aujourd'hui, quelle est la meilleure manière, en tout cas, de réduire, ne serait-ce que, en tout cas, en partie, les dégâts des fausses nouvelles ? Sur quoi mettre l'accent ?
Il faut agir sur vraiment trois piliers. D'abord, le premier pilier, c'est celui de la formation. Il faut d'abord amener les acteurs qui sont sur le terrain et même ceux qui consomment l'information à distinguer le vrai du faux. C'est quoi une fake news? C'est quoi une information? Quels sont les critères pour qu'une information soit qualifiée de fake news? C'est aussi cela. Quand un journaliste qui vient, même s'il a fait une formation, il est sorti avec une formation générale, et il peut ne pas comprendre de quoi il s'agit, sauf si au cours de sa formation, on a eu à l'entretenir, à lui donner des prérequis sur ces sujets.
Donc ça va apprendre déjà à identifier la vraie
identifier
information de la fausse information.
Parce que je vous dis aujourd'hui, c'est des vrais professionnels que nous avons sur les réseaux sociaux qui balancent près de 4,5 milliards de contenus chaque jour. Et vous n'avez pas les moyens ici au Niger, même des grandes puissances n'ont pas les moyens de distinguer, en tout cas dans les minutes qui suivent, est-ce que cette information elle est fausse.
Et c'est quoi le deuxième pilier?
Le deuxième pilier, justement, c'est celui vraiment de l'éthique même de notre profession. Il faut vérifier l'information. Un journaliste, quand tu prends pour argent comptant tout ce que tu vois sur un réseau social, parce que ça a été diffusé par quelqu'un, on peut faire de faux profils aujourd'hui. Ça fait partie des astuces. Mmh. On peut venir aujourd'hui prendre quelqu'un de crédible pour dire que lui, quand on lui porte cette information, tout de suite, des millions de Nigériens vont croire à ça. Et on lui fait un faux profil. Donc, c'est des astuces. Tout cela, c'est pas par le discours. Il faut par la pratique, la formation, pour dire aux gens, voilà. Parce que même un journaliste, il ne peut pas se sentir un peu souvent obligé de ne pas traiter l'information, si lui-même il n'a pas été entretenu sur ça, il faut qu'il sache d'abord comment identifier une fausse information. Ouais. Donc, franchement, je vous dis, il y a un véritable travail qui doit être fait, et c'est peut-être même un travail où il faut déconstruire même tout ce qu'on a comme arsenal, je ne dirais pas juridique, mes règles à l'interne. J'ai parlé tout à l'heure du code d'éthique et de la charte. Oui. Il faut déconstruire pour les adapter au nouveau contexte.
Et introduire, vous voulez dire, certaines...
Exactement, aux nouvelles menaces qui sont là. Parce que ça, c'est des menaces réelles. Ça peut déstabiliser un pays. Je vous dis, parce que surtout avec l'histoire des faux profils. Et ça, c'est même ça dans certains pays. C'est à ça, les gens, aujourd'hui, c'est le défi à relever. Ce n'est même pas le défi des sites, de faux comptes, de faux sites en ligne. Que les, non, c'est le, vraiment les comptes, le faux profil.
Albert Chebou.
Oui.
Merci. Albert Chebou, comment, en tout cas, faire face aujourd'hui aux fausses informations, les fake news?
Bon, vous savez, le journalisme, ce sont des valeurs. L'Internet, c'est un système technique. Le défi aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce système technique engloutisse les valeurs du journalisme. Ça, c'est vraiment le défi, même au niveau mondial aujourd'hui. Donc, dans des pays comme le nôtre, nous avons des organes de régulation et d'autorégulation aussi. Donc, ce sont ces organes qui doivent aussi veiller au respect strict des règles d'éthique et de déontologie. Au Niger, nous avons la charte des journalistes professionnels du 4 juillet 1997, je pense. Hein? Oui, nous avons le code d'éthique et de déontologie de l'ONIMED, qui est l'Observatoire nigérien des médias, l'éthique et la déontologie.
Qui est une reprise, justement, de la charte.
Voilà. Donc, tous ces référentiels doivent normalement veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie. Et je pense aussi qu'il y a un travail à faire au niveau des organes même de presse pour qu'ils aient à l'interne aussi des codes de conduite pour respecter vraiment un certain nombre de choses, pour veiller au travail que font les journalistes dans ces organes de presse. Parce que les responsables de ces médias aussi ont une grande responsabilité sur le travail que les journalistes font dans leurs organes. Donc, c'est aussi, Lamine a parlé de la formation, etc. Donc, il faut aussi faire beaucoup de formations sur, aujourd'hui, la cohabitation, ou je ne sais pas comment l'appeler, entre les réseaux sociaux, aussi, voilà, et les médias traditionnels. Et comment utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux à bon escient. Mm. Voilà, en tant que journaliste aussi, quoi.
Savoir se tenir entre les deux,
voilà.
Quels
sont les bienfaits, quels sont
les
dangers, les risques, etc., de l'utilisation de ces réseaux sociaux, de ces médias sociaux, etc. Donc voilà les défis, en tout cas, pour nous.
Bien. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui portant sur le thème « Exercice de la liberté de la presse au Niger, comment sont véhiculées les fausses nouvelles, leurs conséquences et comment éviter le piège ». Nous avons vu que les fake news ou les fausses nouvelles, c'est des faits inventés, créés de toutes pièces dans le but de tromper ou de manipuler une opinion. C'est un fléau qui gagne du terrain de plus en plus avec l'avènement des réseaux sociaux. Si pour d'autres, les journalistes sont des cibles des fausses nouvelles, pour d'autres, certains journalistes sont même des acteurs de propagation de fausses nouvelles. Les textes qui existent aujourd'hui encore, notamment la loi portant régime de la liberté de la presse, ne fait pas cas expressément de fausses nouvelles. Nos invités ont insisté sur la nécessité pour les journalistes d'être encore plus rigoureux, d'être encore, notamment en respectant l'éthique et la déontologie du métier de journaliste et en se faisant guider par la vérification des informations et leur recoupage avant toute publication ou diffusion. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Amina Niandou, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication, Albert Chebou, directeur radio alternative, et Lamine Souleymane, journaliste travaillant sur les questions de fake news. Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation et Ali Issoufou pour la technique.